m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Une photo d'une jeune fille de 16 ans, l'air absent et quelques lignes sur une affichette placardée dans les lieux publics. Disparition inquiétante de mineur. Adèle, 1m73, yeux marrons, cheveux blonds foncés, grain de beauté sur la joue droite, a été aperçue pour la dernière fois à boulevard Jean Jaurès à Clichy. Elle portait un t-shirt noir, un pantalon noir et des baskets noires. Voilà le point de départ du nouveau roman d'Astrid Elliard. Un roman d'exil, pas du tout comme les autres, glaçant comme une douche froide, éclaté comme un miroir brisé. La dernière fois que j'ai vu Adèle est paru au Mercure de France et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Astrid Elliard.
Bonjour.
Alors ce n'est pas avec Adèle mais avec sa mère Marion que le lecteur entre dans votre roman. Marion, elle a 45 ans, elle est divorcée, elle a deux enfants et elle est psychologue de métier. Alors je me suis d'emblée posé la question, pourquoi avez-vous choisi de faire de cette maman inquiète une psychologue ?
On croit souvent à tort que les psychologues savent tout de la psyché des autres, de la psyché de leurs patients. On pense qu'ils ont un don de prescience. C'est évidemment pas le cas. Et voilà, Marion, par ironie de l'histoire, elle va tomber. Enfin, c'est pas tomber de sa chaise. Elle tombe d'un immeuble de 10 étages quand elle découvre qui est réellement sa fille. Elle est évidemment passée à côté de l'identité de sa fille. Et sa qualité de psychologue n'a rien changé à cette histoire-là.
Elle n'a pas mieux compris d'elle, malgré sa formation et son expérience,
hein,
parce que ce n'est pas du tout une psychologue débutante. Et c'est vrai que dès les premiers chapitres, vous emmenez vraiment votre lecteur au plus près de la psychologie de la psy, en quelque sorte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas très bien. Alors, dans son cabinet, déjà, elle gère les soucis des autres. Elle doit aussi, évidemment, composer avec les siens, comme tout le monde. Hein. Et il lui a fallu surmonter la séparation avec son mari Antoine, ça n'a pas été simple. Et puis, il y a donc Adèle, avec laquelle les relations au quotidien ne sont pas très simples non plus. Est-ce qu'Adèle, Astrid Elliard, pour sa mère, c'est une ado comme les autres? Parce qu'une ado en crise, qui a un peu de mal à communiquer au sein de sa famille, qui s'enferme un peu dans sa chambre, finalement, c'est assez classique.
Oui, et elle essaye de se rassurer en se disant qu'Adèle est une ado comme les autres. Donc, une ado comme les autres, ça serait quoi? Une ado ingrate, qui parle peu, secrète, qui a une vie cachée, qui s'enferme dans sa chambre, qui a ses secrets.
Qui reproche d'ailleurs à sa mère de l'espionner aussi.
Oui, hein. Tout à fait. Je pense que ça, c'est un reproche classique des ados. Et elle veut se rassurer en pensant que sa fille est une ado comme les autres. Mais au fond d'elle-même, elle sait qu'il y a quand même un problème avec Adèle.
Bon, il y a en tout cas un problème réel, c'est que c'est une fille qui est mal dans son corps.
Oui.
Elle a des problèmes de dos, elle est obligée de porter un corset et on sent dès le début que ça lui pèse énormément.
Oui, en effet. Et le corset, d'ailleurs, c'est une des premières choses que sa mère découvre après le départ d'Adèle. Il y a ce corset qui est posé sur le sol de sa chambre et qui garde...
Elle l'a laissé.
Elle l'a laissé, oui, et qui garde l'empreinte du corps tordu d'Adèle. Ce corset, évidemment, il l'a fait souffrir. Elle le vit mal. Alors bon, Adèle, je ne fais pas parler Adèle dans le livre, mais on comprend évidemment qu'elle souffre de sa scoliose, qu'elle le vit mal, qu'elle est mal dans sa peau. Et elle a laissé ce corset-là quand elle est partie.
Voilà, c'est un corset qui d'ailleurs a participé de la distension des liens entre la mère et la fille. Vous racontez notamment une scène où mère et fille font leurs courses ensemble, chercher les vêtements et... Bon, il n'y a plus la complicité d'avant.
Non, du tout. Et c'est vrai que le corset, on peut y voir un symbole de peut-être d'une éducation manquée. Alors, je ne la juge pas du tout, Marion, évidemment.
Il n'y a pas de jugement dans le livre, d'un bout à l'autre.
Voilà, je ne juge pas Marion, évidemment. Moi, je suis avec elle, je suis 100% avec elle. Mais le corset demeure néanmoins le symbole d'une éducation manquée, le symbole d'une impossible correction, en fait. Le corset, il est là pour corriger, pour rendre droit, rectifier.
Pour distordre la réalité.
Voilà. Bon, le corset a échoué, la mère aussi.
Alors, évidemment, la mère se pose énormément de questions sur cette absence imprévue. Et petit à petit, Astrid Elliard, vous élargissez un peu la focale avec d'autres personnages, plus ou moins proches d'Adèle, qui eux aussi se demandent pourquoi elle est partie et ce qu'elle est devenue. Tous dans de très courts chapitres, hein, qui partagent avec le lecteur leur regard sur Adèle, avec leurs mots à eux. Alors déjà, première question, quand vous parlez de Marion, vous le faites à la troisième personne. Quand ce sont les autres personnages qui parlent d'Adèle, ils disent « je ». Pourquoi cette différence? Alors, vous n'avez pas eu envie de dire « je » aussi pour la maman?
Non, c'est une question que je me suis posée. Ce sont des questions qui remontent à longtemps, hein, qui remontent aux origines, aux prémices du roman. Au début, je voulais que mon roman repose entièrement, essentiellement sur Marion. Et je crois qu'assez vite, en fait, la troisième personne s'est imposée. Je ne voulais pas la faire parler au jeu. Je voulais la regarder, enfin, garder une distance avec elle. Et puis, je me suis rendu compte que le récit gagnerait énormément à faire intervenir d'autres personnages, des témoins qui nous parleraient d'Adèle. Et là, je voulais plus d'écran, je voulais plus d'intermédiaire, plus de distance, et je voulais entendre leur voix aussi à ces personnages.
Donc ils disent je, et ils disent je d'une façon assez différente.
Voilà.
Il y a le frère Timothée, il y a le prof de français Monsieur Pelletier, il y a le patron du snack qui est juste en face du lycée, il y a Johanna par exemple qui est une ancienne camarade de classe d'Adèle, et d'un chapitre à l'autre, vous adaptez votre style, vous adaptez vos mots au positionnement social, à l'âge du locuteur. C'est un style en plus assez oral, on a presque l'impression d'un témoignage de police quelque part.
Voilà, c'est exactement ça. On ne sait pas à qui s'adressent ces personnages, mais on peut imaginer qui s'adresse à un juge ou un policier, à un enquêteur. Le lecteur devient un peu enquêteur dans cette histoire-là. Moi, j'étais moi-même enquêtrice, alors c'est pas une enquête de police, mais on mène une enquête quand même dans ce livre. Et oui, les personnages se livrent, et ils se livrent chacun avec une voix différente. C'était ça qui m'intéressait, de varier les témoignages, varier les voix, varier les angles d'attaque sur ce personnage insaisissable qu'est Adèle.
Ouais, et c'est à travers ces différents regards, ces différents angles, que le lecteur petit à petit reconstitue, j'allais dire, le puzzle du personnage d'Adèle, mais plutôt un puzzle du personnage d'Adèle, parce qu'en réalité, elle est quand même, elle apparaît de façon assez floue. Il y a encore énormément de zones d'ombre. Il y a même parfois des éléments assez contradictoires, hein, d'un témoignage à l'autre. Et souvent, vous construisez ce personnage à travers des petites anecdotes. Par exemple, l'anecdote de Monsieur Boulard. Vous nous racontez en quelques mots?
Oui, Monsieur Boulard, professeur de sport au lycée d'Adèle. C'est une victime d'Adèle. Donc ça, cette histoire-là, elle nous raconte un morceau de la vie d'Adèle avant son départ, avant sa fuite. Adèle, à cette époque-là, est lycéenne. Elle a pas beaucoup d'amis. Elle est assez isolée, mais elle s'entiche d'une camarade avec laquelle elle forme une sorte de duo un peu terrible, et toutes les deux elles vont se venger. Alors c'est Adèle qui est la meneuse, hein. Toutes les deux vont se venger de ce prof de sport d'être un pervers avec les élèves. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas. Alors elle se déchaîne sur lui, et c'est surtout Adèle, hein, qui donc c'est elle qui mène la danse, et c'est elle en fait qui se déchaîne avec une violence inouïe sur ce professeur en taguant sa voiture sur le parking du lycée. Elle écrit quelque chose comme sale pervers à la bombe. Voilà, le professeur en sort brisé, évidemment, et c'est, comment dire, le premier méfait d'Adèle. C'est une histoire, c'est une pièce au puzzle. Après, est-ce qu'elle explique quelque chose? Je ne crois pas. C'est une pièce du puzzle. C'est un indice supplémentaire dans cette traque impossible et vaine d'Adèle.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Astrid Elliard pour son roman La dernière fois que j'ai vu Adèle, paru au Mercure de France. Alors le temps passe, hein, Marion, la mère, n'a toujours pas de nouvelles de sa fille Adèle. Survient un attentat à Paris, au Forum des Halles, un bilan extrêmement lourd, à 25 morts. Et si Adèle faisait partie des victimes, s'angoisse immédiatement Marion, rien ne permet de le dire. Alors, elle se renseigne, mais elle n'a pas davantage de renseignements, parce qu'elle n'a vraiment aucune nouvelle d'Adèle. Elle regarde évidemment la télévision, et puis, avec le temps qui passe, eh bien les visages de suspects d'attentats apparaissent sur les caméras de surveillance, avec deux identités, Mohamed El Badia et Asna Belawar. Les médias tournent en boucle, leurs visages plus ou moins dissimulés de ces deux suspects s'affichent donc sur les écrans. Nous sommes page 113 de votre roman.
Les photos défilent au fur et à mesure que Marion fait rouler la molette de la souris, indéfiniment, sans savoir ce qu'elle cherche, sans oser s'avouer ce qu'elle cherche. Quand une vignette au bas de l'écran, qui diffère de toutes les autres par ses couleurs et les silhouettes qui s'y dessinent, attire son regard. Ce doit être eux, se dit Marion. Mais pas à la gare routière. Ils sont dans un salon, assis sur un canapé gris, ont l'air de sourire. Elle hésite avant de cliquer dessus. Peut-être parce qu'au fond d'elle, elle sait déjà. Elle sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et qu'alors, les pensées interdites cesseront d'être des hypothèses pour devenir la réalité. Une réalité insensée, incompréhensible, mais irrécusable. La flèche de la souris tremble sur la vignette. Marion hésite encore. Elle sent son œil droit diminuer sous la pression de la migraine qui se propage dans son front et ne cesse de nourrir la boule qu'elle imagine énorme, une boule de pétanque. Clic gauche. Pour la première fois, le visage d'Asna Belawar est net. C'est celui d'une très jeune fille aux yeux noirs que Marion met quelques secondes à reconnaître à cause du foulard qui entoure son visage, du sourire qui était devenu si rare et des taches noires qui envahissent subitement son champ de vision, comme des chauves-souris qui auraient pris leur envol dans une grotte. Entre les taches, Marion examine le nez court et un peu large, le menton légèrement carré qui entraîne la mâchoire en avant, les joues creuses et qui pourtant laissent entrevoir une ossature solide. Elle voudrait croire que les visages ne sont que des combinaisons de caractéristiques et que face à deux combinaisons semblables, l'œil peut être facilement confondu, que des milliers, des millions de jeunes filles possèdent ce menton, ce front, ces yeux-là, agencés de cette manière. Elle voudrait se dire que l'erreur est possible et même hautement probable, mais elle l'a reconnue. Le grain de beauté sur la joue droite, cible préférée des baisers de l'enfance. Les yeux noirs, ourlés de longs cils, si inflammables, si prompts à déclarer la joie ou la fureur. Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'il se retrouve là, souriant, aux côtés de l'homme le plus détesté de France ?
Qu'a-t-il bien pu se passer ? C'est évidemment, Astrid Elliard, la question qui va tarauder la mère, qui a l'impression effectivement que le monde entier s'écroule sur elle. Comprendre, c'est la première question. Vous posez beaucoup de questions, d'ailleurs dans le livre, vous donnez pas vraiment de réponse. C'était un danger ?
C'était un danger de...
Pour vous, de donner une réponse et donc de commencer sur une forme de jugement.
Alors, c'était pas forcément un danger. Pour moi, l'incompréhension est le point de départ. Et le livre, il est né parce que une gamine qui s'en va faire le djihad en Syrie, c'est la fin de toute compréhension. C'est la fin de toute compréhension. Et c'est là que la littérature devient intéressante. C'est là que moi, j'étais incroyablement stimulée. Donner de réponse, déjà, je n'en ai pas. Déjà, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas fait. Ce n'est pas une œuvre de sociologie. Je n'ai pas fait.
Vous n'avez pas fait d'enquête auprès.
Non, du tout. Je n'ai pas fait d'enquête. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était ce mystère-là. C'était tourner autour de ce mystère et essayer de d'appréhender ce brouillard, cette énigme, et de laisser l'énigme. De laisser l'énigme se diffuser, en fait. Je pense pas que quand on est la mère d'une gamine partie faire le djihad en Syrie, je ne pense pas qu'il y ait de réponse possible, qu'il y ait de solution à cette énigme-là. Ça demeure une énigme, et voilà. Et c'était ça qui m'intéressait d'explorer.
Mais il y a aussi un autre élément qui arrive tout de suite dans la tête du lecteur. Il y a effectivement toutes les questions, et la question de la compréhension, et puis aussi la question de la culpabilité. Oui. C'est qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'elle ait pu en arriver là ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Est-ce que j'ai vécu pendant tant d'années à côté de ma fille sans vraiment savoir qui elle était ? Ce sentiment de culpabilité, il arrive quand même extrêmement vite.
Oui, ouais. je me disais c'était impossible de passer à côté de ce sentiment de culpabilité. Me mettant à la place de Marion, elle devait se sentir coupable. Et puis alors la culpabilité, c'est aussi peut-être un ancrage, le début de la compréhension. Je disais tout à l'heure, c'est la fin de toute compréhension. Mais la culpabilité, s'il y a culpabilité, il y a coupable, et donc il y a une origine, il y a une cause, et donc il y a une histoire qu'on peut raconter, il y a une continuité, il y a un fil, et cette histoire a un sens. Je crois que cette histoire n'a pas de sens. Je crois que quand on est mère de famille et que son enfant est terroriste, ça n'a pas de sens, il n'y a plus de sens. Mais la culpabilité vous oblige à trouver du sens là où il n'y en a pas.
Oui, mais là où le lecteur ressent aussi peut-être un effroi qui n'a rien à voir avec celui de Marion, mais qui est quand même un peu comparable, c'est qu'il se dit comment je ferais moi si ça arrivait à mon fils ou à ma fille, quoi. On se dit que ça peut arriver à tout le monde, puisqu'effectivement, au départ, on a l'impression d'une famille assez banale.
Oui, tout à fait. Mais je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est ça qui m'intéressait. Moi, cette question que vous vous posez, je me la suis posée. Cette question m'a effrayée au lendemain des attentats de Charlie Hebdo du 13 novembre. Marion est née comme ça. Elle est née avec ma terreur de mère de famille. Évidemment, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver à nous tous. Et peu importe, qu'importe l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, les valeurs qu'on leur a transmises, ils peuvent soudain prendre la tangente et choisir un destin qui est complètement étranger à votre monde, à votre univers.
Alors ce livre, Astrid Hélyard, vous l'avez dédié à vos filles,
oui. Hein,
c'est à lui que s'adresse la dédicace de départ. Quel message souhaitez-vous qu'elles en retirent de ce livre ?
Quel message ? Je sais pas si... Bon, elles sont encore petites pour... Elles le liront pas tout de suite. Quel message ? Je sais pas
parce
si
que un... dédier un oui, livre comme ça à, oui. à ses fils, ça peut être extrêmement lourd.
Oui, c'est après ce livre, je voulais le dédier à mes filles parce que c'est une histoire de filiation quand même, ce livre, de la grand-mère à la mère en passant jusqu'à la petite fille. C'est une histoire de filiation et de filiation de femme. Et évidemment, moi, mes filles, je voudrais leur transmettre tout ce que Marion a essayé de leur transmettre, à savoir que les hommes et les femmes sont égaux, à savoir que les femmes ont le droit de disposer de leur corps comme elles le veulent. Évidemment, je veux leur transmettre tout ça et j'essaye de leur transmettre tous les jours. Je pense pas qu'il y a un message. Il y a pas forcément de message pour elles dans le livre, mais j'ai pensé à elles, oui. Ce livre leur est dédié parce que j'ai pensé à elles, évidemment.
Merci beaucoup Astrid Hélyard. La dernière fois que j'ai vu Adèle est parue, je le rappelle, au Mercure de France.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
la poétesse du mouvement. Je travaille exclusivement le papier blanc. Ce qui m'intéresse dans le blanc, c'est tout ce qui va être le relief, le volume et les ombres, sachant qu'il y a énormément de quantités de blancs différents, qu'il y ait des blancs froids ou des blancs chauds. Et ça m'intéresse énormément de réussir à créer quelque chose sur ce monochrome-là. Je m'appelle Jannick Bourget et je suis plasticienne. Donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle un gabarit, qui donc va me servir de référence pour ensuite mettre la colle. Donc je creuse, je coupe au cutter le papier. Et ensuite, c'est la partie que j'ai retirée qui va me servir de zone de délimitation pour là où je vais mettre la colle, selon le rythme que j'ai choisi initialement. Et le rythme va définir ensuite la densité de mes cellules, et donc la rigidité et la solidité. Donc ce que j'appelle cellules, en fait, c'est les alvéoles. En fait, c'est un peu comme les alvéoles qu'on a dans des ruches d'abeilles. Donc, c'est-à-dire, il y a une paroi fine qui entoure un creux. Moi, je le laisse vide et surtout, je donne une nouvelle forme à cette alvéole. Donc, je dépasse l'hexagonale pour aller vers des formes un peu plus élancées, plus longues et plus souples. Et ça, c'est un des dessins de cellules et alvéoles que j'ai dessiné. Mais j'en ai toute une quantité différente, et donc avec des densités différentes, donc plus ou moins serrées, plus ou moins ouvertes, qui amènent ensuite la matière à être souple et avec des esthétiques complètement différentes et inattendues pour du papier. Donc c'est ma matière première que je sculpte, et donc je déploie tout ce travail alvéolaire qui ensuite prend beaucoup plus de place. que je sculpte pour donner des formes assez organiques. En fait, c'est tout un travail de collage. Donc, je fais mon bloc de papier avec les collages et les trames que j'ai dessinées. Et ensuite, de ce bloc-là, je viens le retailler en lui donnant une forme et en le sculptant vraiment selon un motif ou un dessin. Après avoir fait cette découpe à la scie à ruban, je retravaille cette tranche, je fais en sorte de la polir ou de la poncer de manière à ce que ce soit très propre et très très lisse, et que la forme ensuite, une fois déployée, sera beaucoup plus fine et précise. Donc c'est donc un bloc de feuilles que j'ai sculpté, et ensuite là je déploie la matière pour faire en sorte que les deux feuilles, la première et la dernière feuille du bloc, se retrouvent collées l'une contre l'autre. Cette dernière étape donne vraiment la forme à la sculpture, donc on arrive sur quelque chose de très déployé, et donc il y a un vrai volume qui existe après ça. Ça peut ressembler à des oursins, ça peut ressembler à des... c'est pas tellement que ça ressemble, mais ça peut évoquer des oursins. Ça peut évoquer des structures des coraux. Il y a aussi toutes les corolles sous les champignons. Ça peut évoquer toutes ces parties-là avec la finesse de la tranche de la feuille. Mes sculptures dont je parle, ça tient dans le creux d'une main. Et puis, j'arrive aussi à des sculptures beaucoup plus conséquentes. Notamment, là, j'en ai une qui fait environ 1,50 m de diamètre. Donc, ces sculptures, je vais les exposer dans des galeries.
Aujourd'hui, j'étais...
la poétesse du mouvement.
Sur RFI.
Un café pour moi, s'il vous plaît.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et autour de la table cette semaine, Elisabeth Le Quéré, Alain Pilot, Fanny Blechner et Amélie Beaucourt. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Alors je sais qu'avec vous Amélie, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais quand même, apporter une boîte de petits pois pour un café gourmand, est-ce bien raisonnable?
Non, rassurez-vous Jean-François, c'est pas une vraie boîte de petits pois, c'est le nom d'une bande dessinée qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Giedrė et qui a grandi dans la Lituanie de l'époque soviétique.
Elisabeth, si je vous dis, comment ça merde alors? But alors you are French? Vous me répondez?
Oui, de funès, c'est un musée à Saint-Raphaël qui lui est entièrement dédié, vient d'être ouvert.
Avec vous Alain, un artiste en trois lettres.
Ellie, E-L-Y, c'est son nom, et chaque lettre des trois volets qui constituent son album, baptisé tout bonnement En trois lettres. À 23 ans, vous allez faire la connaissance d'un artiste déjà très mature, également co-créateur du label 67000, référence au code postal de sa ville d'origine, Strasbourg.
Ce qui me rendait fou, c'était la double nature de cette nymphette, de toutes les nymphettes d'ailleurs. Ce mélange dans ma Lolita de gaminerie tendre, rêveuse, et d'une sorte de hideuse vulgarité.
Lolita, c'est le personnage culte inventé par Vladimir Nabokov. Son roman éponyme a fait scandale dans les années 50. Depuis, il a inspiré des générations d'artistes, entre autres le cinéaste Stanley Kubrick, comme on vient de l'entendre. Et un demi-siècle plus tard, Fanny, Christophe Tison a eu aussi envie de se pencher sur cette histoire.
À l'occasion de cette rentrée littéraire, il publie « Journal de Elle ». Il nous en explique la genèse.
J'ai relu Lolita il y a 2 ans, et il y a 2 ans, il m'a apparu comme une espèce d'évidence folle que on n'entendait jamais Lolita dans Lolita, alors que c'est le personnage titre. Et jamais on l'entendait, ou alors elle râle de temps en temps, elle veut un sundae au chocolat, et tout est vu du point de vue de son kidnappeur, de Humbert Humbert. Et donc, il peut dire lui ce qu'il veut. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, c'est une adolescente, et comme toutes les adolescentes de ces années-là, des années 40, 50, elle doit tenir un journal, c'est sûr.
Oui, parce que, rappelons-le, hein, Fanny, dans Lolita de Nabokov, on suit le journal d'Humbert Humbert qui explique comment il a rencontré Dolores Hayes, la fille de sa logeuse. Après la mort de cette dernière, il devient le tuteur de Lolita et on suit leur road trip aux États-Unis.
Et voici ce qu'on dit la Lolita de Christophe Tison.
Je suis la jeune fille aux yeux pères.
Je suis la jeune fille aux yeux pères. La jeune fille qui ne veut plus voyager, qui veut être aimée mais ne sait pas aimer.
La jeune fille aux cheveux tressés.
La jeune fille aux cheveux tressés ou mal peignés.
Celle à qui on passe tous ses caprices.
Celle à qui on passe tous ses caprices. La jeune fille qui a encore acheté une robe bleu ciel à pois blancs, la troisième. Qui veut des huiles pour son bain et des sodas à la cerise et qui dit toujours oui. Oui, autrefois à ses camarades de classe pour qu'il l'aime. Oui, maintenant aux vendeuses des magasins pour qu'elle l'aime. Oui, à Eumy pour qu'il prenne un hôtel à colonnade avec piscine. Et qui joue ensuite dans sa grosse voiture aux dames plein d'oseille avec le fric de son mec
qui est en fait son beau-père et qui l'a B, trois petits points.
On a reparlé de passion amoureuse avec Lolita, mais c'est bien une relation pédophile. Christophe Tison, lui aussi, en a été victime. Il évoquait son enfance dans son récit « Il m'aimait ». Il a pu trouver certains points de ressemblance avec Lolita.
Je me suis inspiré de mon enfance, mais c'est loin maintenant. Et c'est seulement des relents, enfin des vieux souvenirs. Et puis c'est une jeune fille, c'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, oui, pour tout ce qui est la honte de soi, le piètre estime de soi, je me suis un peu inspiré de ça, oui.
Bon, il y a peut-être des rapprochements, des ressemblances, mais là quand même, il a dû se mettre dans la peau d'une adolescente des années 40.
Et il a fallu trouver une certaine justesse de ton.
J'ai mis des mois à trouver sa voix, à trouver la manière dont elle parlait, dont elle pouvait parler. Et puis d'un seul coup, c'est venu. D'un seul coup, elle était là, elle était devant moi, et j'entendais sa voix, et je pouvais y aller, je pouvais l'écrire.
Alors, au début du roman, Lolita, elle a 12 ans, c'est une très jeune fille kidnappée et violée. À la fin, c'est une jeune femme, forcément, Fanny, sa voix n'est pas la même.
Oui, effectivement, l'écriture évolue au fil des pages. On passe des considérations d'une adolescente à une femme déterminée qui s'enfuit, qui veut vivre de belles choses, et qui n'est pas que cet enfant violé.
Au début, elle est dans la sidération. C'est le cas de tous les enfants qui sont abusés. Petit à petit, elle est manipulée par cet homme et elle apprend à manipuler. C'est-à-dire, elle grandit, elle mûrit très vite. En plus, cet homme est un homme intelligent, cynique, etc., qui lui donne des tas de choses à lire, qui la nourrit. Comme moi, ça m'est arrivé. Tout au long du récit, j'ai fait en sorte que son écriture évolue, que la manière dont elle pense évolue aussi, la manière dont elle ressent les choses évolue aussi.
Et ça donne ça.
Je regarde toutes ces maisons alignées dans notre rue, leurs fenêtres illuminées pour le dîner, leurs petits toits, leurs petits jardins et leurs petites barrières en bois, et je les trouve absurdes. Comment peut-on vivre là-dedans? Quel fou a inventé ça? Ce n'est pas seulement leur alignement sans vie qui me frappe, mais les maisons elles-mêmes. J'imagine le fatras qui les encombre. Assiettes dans les placards et lampes, chaises, tables et nappes pour la table, tapis et plus loin lunettes de chiottes, papier hygiénique, eau de javel. Et puis couvre-lit, porte, tiroir, godemichet caché, lavabo, pot de crème, linge sale, fer à friser. Et des photos qu'on ne regarde plus, des albums, des livres, des boutons de culotte, des pinces à crabe jamais utilisés. Cet immense bordel reproduit à des millions d'exemplaires sur tout le continent, fabriqué par des gens qui ont eux-mêmes des objets semblables et vivent dans des maisons identiques reliées par des routes, des rails, des bus, des métros. Tout ça juste pour continuer à fonctionner, travailler, dormir, manger et se reproduire sans savoir où ils vont ni à quoi sert tout ça, comme un troupeau de chèvres hallucinées. Tous broutant, mâchant, rentrant en paquet à la bergerie.
Alors ces réflexions, par exemple, hein, forcément, puisqu'il utilise la voix d'Humbert, on ne les retrouve pas dans le roman de Nabokov. Il s'en est donc beaucoup éloigné, finalement, Christophe Tison ?
Dans l'approche, oui, bien sûr, mais il est resté au plus près, par exemple, du parcours de Humbert et de Lolita. Lolita, dont je vous l'apprends peut-être, Jean-François, le personnage est protégé sous copyright par la Fondation Nabokov.
J'ai suivi le roman de Nabokov pied à pied, motel après motel, route après route. J'ai suivi le roman de Nabokov. Il faut voir que sur Internet, par exemple, il y a des fous de Nabokov qui reconstituent le parcours de la Lolita de Nabokov à travers les États-Unis. Ils disent « Ah oui, elle a dû aller là, elle a dû aller dans le Wisconsin, elle a dû aller en Caroline du Nord, elle a dû aller en Californie, etc. » Mais je me suis pas replongé dans le roman parce que le roman est très écrasant. Il est extrêmement bien écrit, c'est très beau, la Lolita de Nabokov. Et puis j'avais pas à écrire comme Nabokov. J'avais à écrire comme une jeune fille de 12 ans et demi, 13 ans, 14 ans dans les années 40.
Christophe Tison s'est d'ailleurs rendu aux États-Unis où il a tourné un mockumentary sur le journal de Elle. Comprenez, un documentaire fictif où on le voit retrouver les carnets de la jeune fille puisque, comme Nabokov, Christophe Tison présente cette histoire comme réelle.
J'ai fait une petite préface en disant voilà, ce sont les carnets retrouvés de Lolita. Je dis ce que je veux et je dis ce qui m'arrange aussi. Je rétablis la vérité, on dira.
Voilà, justice est donc rendue à Lolita avec ce journal de Elle, écrit par Christophe Tison et publié aux éditions Goutte d'Or. Merci Fanny.
Grand-mère, grand-mère, j'aime quand tu me racontes des histoires. Grand-mère, grand-mère, oui, surtout celle de quand t'as glissé sur le trottoir.
Elle chante des chansons rigolotes sur des sujets pas très rigolos. et interprète et humoriste, mais c'est en bande dessinée qu'elle s'illustre aujourd'hui. Guédré est née à Vilnius en 1985, quand la Lituanie était encore une république de l'Union soviétique. Le titre de l'album, paru aux éditions Delcourt, sonne un peu comme une devinette, Amélie. Qu'est-ce qui est petit, vert et vénéré en Lituanie dans les années 80?
La réponse, Jean-François, c'est le petit pois, parce que ce légume qui, si on mange tous les jours à la cantine, est en fait un aliment de luxe en URSS. À l'époque, point de supermarché où on se sert librement comme aujourd'hui, les boîtes de conserve de petits pois étaient ultra rares, et lorsqu'on en trouvait, seules les personnes proches du pouvoir pouvaient s'en procurer. Alors quand on réussissait à en avoir, Jean-François, on les gardait précieusement pour Noël, par exemple, un peu comme le foie gras chez nous. Cette histoire, donc, c'est celle de Giedrė, une jeune femme lituanienne, chanteuse, on l'entend juste sous le son. Elle avait 7 ans quand elle a quitté Vilnius pour Paris, mais encore aujourd'hui, elle a un truc avec les petits pois.
Aujourd'hui, bien sûr, déjà, bon, je vis en France, mais même en Lituanie, il y en a plein partout. Mais je crois que pour tous les gens de ma génération, évidemment, la génération au-dessus, ça restera toujours quelque chose de fort, quoi. Enfin, le goût du petit pois, mais vraiment le plus nul en plus, quoi. Le petit pois en conserve, tout mou et plein de sucre et d'additifs horribles, quoi. C'est vraiment, en plus, gustativement parlant, enfin, voilà, on n'est pas dans un 3 étoiles. Hein. Mais voilà, ça aura toujours la saveur de quelque chose de précieux, quoi.
Bref, le petit pois tout mou à l'époque, c'est le caviar des républiques soviétiques. Et c'est d'ailleurs pas le seul aliment que les Lituaniens sacralisent. Dans la BD, on assiste à la première fois où la petite Giedrė a vu une banane, qu'elle a d'ailleurs engloutie toute crue avec la peau.
Quand les bananes sont arrivées, c'était vraiment le goût de du monde libre, quoi. C'était déjà totalement exotique, parce qu'en plus, ça venait même pas d'Europe de l'Ouest, ça venait d'encore plus loin, quoi. Donc, et qu'on y ait accès, ça signifiait le passage à quelque chose d'autre. La Lituanie, on a appelé ça pendant longtemps Banana Land, parce qu'il y avait des bananes, mais partout, quoi. Enfin, c'était vraiment le truc. Mais les grands-mères en vendaient sur le bord des routes, en mettant sur des cages. Enfin, tout le monde, il y en avait partout. Et les gens mangeaient ça frénétiquement, mais comme s'ils goûtaient à la faim. D'une époque et au début d'une autre, quoi. Enfin, c'était drôle.
Ouais, une histoire racontée dans la BD par une fillette de 7 ans, et ça se ressent dans le dessin d'ailleurs, Amélie.
Oui, pour retranscrire le côté naïf et espiègle, les illustrations reprennent les codes de l'enfance, avec des traits simples, des bonhommes dessinés au crayon de couleur, et une écriture ronde et manuscrite à l'intérieur des cases et des bulles qui pourraient être celles d'un élève de primaire. C'est Oli R. qui a dessiné patiemment les aventures de Giedrė.
Le travail du dessin était hyper long, parce que absolument rien n'est numérique, en fait. Et tout a été fait directement sur papier carton. Enfin,
au début, je commençais par faire tout au crayon de couleur. Sauf que chez Delcourt, on m'a dit que c'était un peu trop fade. Du coup, je me suis dit, bon, ben, l'aquarelle, c'est plus rapide. Donc j'ai fait la plupart des choses à l'aquarelle et j'ai mis les fonds au crayon de couleur pour donner l'impression que tout était au crayon de couleur, en fait.
Moi, j'y tenais beaucoup parce que... Mais je crois que je me rendais pas trop compte du travail que ça représenterait quand j'ai soumis peut-être cette idée. Mais c'était un temps incroyable pour dessiner.
Bon, le scénario aussi était long à écrire, puisque tout ce qui est écrit et décidé dans cet album... est vrai.
Ouais, tout à fait. Giedrė a fait appel aux souvenirs de sa mère et de sa grand-mère, et ça donne d'ailleurs des anecdotes très croustillantes. Un exemple. En 1990, vous le savez, Jean-François, la Lituanie proclame son indépendance et les habitants sont autorisés, pour la première fois depuis très longtemps, à quitter le pays. La maman de Giedrė part en Suède. Elle commence à avoir soif et demande à un inconnu, de lui donner de l'eau. Et l'inconnu lui indique du doigt une espèce de machine informe avec une bonbonne et un petit bouton. Une fontaine à eau, en fait, chose qu'elle n'a jamais vue de sa vie.
Elle avait eu très très honte ce jour-là. Elle m'a dit vraiment, là je me suis sentie qu'on était vraiment... C'est pas des bouseux ou j'en sais rien, mais comme on appelle chez nous les homo sovieticus, c'est ceux qui, en allant à l'étranger, se ridiculisent. Parce que, bah, effectivement, ils voient cette fontaine, ils voient pas qu'il y a des verres à côté. Donc, en fait, après avoir tourné 10 minutes autour, ils appuient sur un bouton et ils mettent leur bouche sous le robinet. Et évidemment, bah, ça fait pas chic, quoi. Donc, c'était un des exemples, voilà, que j'ai pris pour illustrer le ridicule dont on se sentait un petit peu envahi à chaque fois qu'on savait pas pas, c'est comment un distributeur, c'est où, c'est quoi, mais il y a de l'argent qui sort des murs, mais c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est que ces pays où il y a de l'argent qui sort des murs, quoi. Enfin, voilà.
Alors évidemment, pour les générations précédentes qui habitent les pays baltiques ou toute autre ancienne république soviétique, cet album n'aura peut-être pas le même écho. Il réveillera peut-être des souvenirs nostalgiques, peut-être douloureux ou honteux, mais le regard sincère et tendre de cette petite fille fait toute la différence, et j'espère, Jean-François, que vous penserez à elle en ouvrant une boîte de petits pois.
La prochaine fois, effectivement, c'est promis, la boîte de petits pois, un album signé Guy Edret et Oli R, une bande dessinée pour tous les âges, donc paru aux éditions Delcourt. Merci Amélie. Le cinéma avec vous, Elisabeth, et cet hommage à une des figures les plus populaires du 7e art français. J'ai nommé Louis de Funès dans le sud de la France, à Saint-Raphaël, dans le département du Var. Un musée entièrement consacré à ce génie du comique vient donc d'ouvrir ses portes.
Oui, il a ouvert ses portes le 31 juillet à l'occasion de l'anniversaire du comédien, anniversaire posthume. Il aurait eu 105 ans, Louis de Funès, le 31 juillet 2019. Alors l'acteur de Pouic Pouic, d'Hibernatus, de La Traversée de Paris, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, l'homme au 160 films est mort en 83, et 36 ans après sa mort, et bien sa famille, avec l'aide de la commissaire Clémentine de Roudy, une ancienne collègue de RFI, absolument, a monté de toutes pièces ce musée avec une idée en tête.
On a qu'on se dit, mais qu'est-ce que je veux raconter comme histoire? Là, c'est l'humour, c'est la joie, c'est-à-dire c'est raconter la joie. Qu'on se soit bien marré, qu'on en ait retrouvé de Funès, qu'on ait retrouvé ses films, qu'on ait retrouvé les répliques cultes, et qu'on ait retrouvé aussi peut-être une époque.
Je veux une police au relax. Vous entendez, relax, regardez pas, pourquoi? Quand vous observez, restez relax.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée, Elisabeth?
Eh bien, des décors de films, bien sûr, des costumes, des images d'archives. On déambule dans la vie et l'œuvre de l'acteur comique, de sa naissance modeste à Courbevoie. Il est né dans une famille d'immigrés espagnols, jusqu'à sa gloire assez tardive, en passant par sa vie de jeune pianiste de bar et ses premiers films. Alors, ce musée, c'est un tout petit musée, il faut le dire. C'est un espace assez intime. Mmh. Et quand on entre, par exemple, c'est un peu comme si on pénétrait dans le château de Louis de Funès, parce que figurez-vous, Jean-François, qu'il avait un château à Nantes. Donc il y a le piano, il y a ses films de famille, parce qu'il adorait filmer ses proches avec une caméra Super 8. Alors Julia de Funès était là pour l'inauguration du musée, c'est la petite fille de Louis de Funès, et elle avait 5 ans quand son célèbre grand-père est mort.
Ce qui perdure à travers toute notre famille, c'est un grand-père évidemment très chaleureux, très gai, contrairement à ce qu'on dit. Ça aussi, ça fait partie des on dit qu'il était sinistre, mais toutes les critiques par jalousie, par ressentiment, finalement s'évaporent, et quand on fait un petit pas dans le musée, on voit à quel point c'était faux. Donc c'était quelqu'un de très gai, de très joyeux dans la vie, mais en même temps très sérieux et très exigeant pour son travail. Quand un film repose entièrement sur ses épaules, il n'est pas question de faire le clown au contraire, de travailler très sérieusement. Donc c'est cette dichotomie entre l'exigence et le travail et la rigueur d'un côté, et puis la grande dérision, la grande distanciation par rapport à ce qui se passe, qui le caractérise et qui est très bien retranscrite ici.
Et puis l'exposition, effectivement, Jean-François, eh bien, elle permet de découvrir le De Funès intime, gentil, attentionné. On l'entend dans la voix de sa petite fille, il y a beaucoup d'affection. Écolo avant l'heure, on peut le voir dans son jardin en train de tailler ses rosiers. Il y a même son sécateur qui est exposé dans le musée. Délicate attention. Et puis voilà, il paraît qu'il disait toujours si je n'avais pas fait l'acteur, j'aurais été jardinier. Voilà. Et puis on peut aussi dans ce musée revisiter tous ses films. Il y a même une salle de danse où on peut on peut imiter Rabbi Jacob.
Je suis pas sûr de me lancer.
Moi non plus. Et enfin, Jean-François, ce petit clin d'œil sonore.
Il n'est jamais trop tard pour faire la cour à sa femme, ma biche.
Ma petite biche.
Vous n'oubliez rien. Oh,
ma biche.
Vous êtes sûr que vous n'oubliez rien?
Oh, ma biche. Ma biche.
Bon, même quand il essaie d'être tendre, il fait quand même un petit peu peur.
Mais oui, il est toujours survolté, toujours sur les nerfs. Alors De Funès, c'est pas seulement la diction si particulière, c'est les yeux, le corps, la façon d'occuper l'espace. Enfin, en deux mots, c'est un génie burlesque. On écoute la commissaire Clémentine de Roudy.
Le vœu le plus cher de Funès, qu'il aurait réalisé, puis il est mort malheureusement trop tôt, c'était de réaliser un film muet. On le voit dans les carnets que j'affiche dans le musée. Et donc le côté muet, le côté gestuel fait que, ouais, il peut voyager partout, quoi. On le voit bien avec les enfants, par exemple. Les enfants adorent les films de Funès parce que c'est Charlot, quoi. Qu'ils n'ont pas besoin de comprendre, mais ils le voient, les mimiques. Enfin bon, là, je vais les faire, ça va être terrible, mais tout ça est quelque chose qui fait qu'on n'a pas besoin de comprendre le français pour pouvoir aimer les films de Funès.
Qu'est-ce que tu veux, toi? moi, hein? Tu veux un coup de pelle? Tu veux que je la taille ta barbe?
Plus, plus fort! Ouais, chef! Nous sommes les plus forts!
Oui, chef! On les aura!
Oui, chef!
Bon, ça, c'est évidemment le gendarme, ça fait partie des scènes cultes, évidemment, de Funès, mais c'est un acteur tellement populaire, un acteur qu'on s'est effectivement transmis de génération en génération, Elisabeth. C'est quand même incroyable qu'il ait fallu attendre autant de temps, hein, presque 40 ans, pour qu'il ait son musée.
Oui, alors en fait, Jean-François, il avait déjà son musée à Saint-Tropez, le musée de la gendarmerie. Suivez mon regard, hein,
évidemment.
Voilà, allusion au gendarme de Saint-Tropez.
Cruchot.
Cruchot. Mais la différence, la grande différence, hein, c'est que le musée Saint-Raphaël, lui, s'est monté avec l'accord de la famille. Et après tout, c'est aussi à Saint-Raphaël, hein, qu'a été tourné un film culte de Louis de Funès, culte en particulier grâce à cette scène avec Bourville.
Oh non, alors non, oh non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, le plus vrai.
Hein? Mais vacances sont foutues, partais pour l'Italie.
Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite.
Mais je ne suis pas pressé, moi.
Alors, moi, je suis pressé, voilà. Ben, alors, voilà, c'est là.
Mais
je
vous en
prie. Alors
voici
ma carte.
Bon, vous avez reconnu.
Bah, le Cornio, le voilà. Cornio, évidemment.
Bien sûr, le Cornio en 64. Hein, c'est deux ans avant la grande vadrouille où il va retrouver d'ailleurs Bourville. Alors là, c'est vraiment des années, Jean-François, où il est au sommet du box-office. C'est-à-dire tout ce qu'il touche devient de l'or. Alors je ne vais pas dire qu'il n'a tourné que des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire tout se mélange un peu, hein, les super nanars. Comme La Soupe aux Choux, mais aussi parfois des films plus ambitieux, hein, comme La Folie des Grandeurs avec Yves Montand, ou encore Les Aventures de Rabbi Jacob avec une scène qui va devenir culte. Alors on va l'entendre, hein, vous allez entendre que dans la France des années 70, on peut encore rire de tout, hein, même si les dialogues écrits par Gérard Houllier et sa fille Danielle Thompson sont parfois un peu limites.
Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risque d'arriver.
Quoi donc ?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste !
Voilà, Henri Guibé et Louis de Funès, hein, le duo irrésistible des oui. aventures de Rabbi Jacob.
Ouais, alors là, c'est vraiment hein, le moment où de Funès entre dans l'imaginaire collectif français, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-François. D'ailleurs, l'expo s'achève en musique avec un jukebox. Et là, effectivement, on s'aperçoit que c'est pas seulement un voyage à travers les films, la filmographie de Louis de Funès, mais c'est aussi un voyage dans le temps, hein, dans les années 60 et 70. Écoutez ça, par exemple.
La musique du gendarme de Saint-Tropez, film de 1964. Ce musée Louis de Funès est donc à visiter à Saint-Raphaël dans le Var. Ça donne envie de revoir une fois encore ces films. Et ça tombe bien, Elisabeth, parce que la Cinémathèque française à Paris, vous me le disiez tout à l'heure, nous concocte pour l'année prochaine une exposition Louis de Funès et une rétrospective de ces films. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans VMBN. Merci, Elisabeth.
J'ai tout le temps m'envolé, si seulement je le voulais, mais c'est si seulement t'envoler, si seulement j'en avais l'air.
Arthur Ely dans le Café Gourmand de VMDN sur RFI, envolé. Alors Arthur Ely, Alain, c'est un nouveau venu dans le milieu du rap hexagonal?
À vrai dire, Arthur Ely estime qu'aucun rappeur ne le considérerait comme tel et jamais il n'en aurait la prétention. Il se sert du rap parce que c'est une forme qui lui correspond en ce moment. Le plus important pour lui est d'écrire des chansons, mais il est avant tout un chanteur de variété.
Ce qui me plaît dans le mot variété, c'est l'idée qu'il n'y a pas de racine musicale précise. La variété, elle se nourrit des styles musicaux. Et donc moi, ça me parlait pas mal, ça, de me dire que je fais pas de la chanson, je fais pas spécialement du rap, je fais pas du rock, je fais vraiment une musique un peu transversale qui se nourrit de tout ça. Dans la variété, l'autre chose qui m'intéressait, c'est l'idée quand même de cette idée un peu de vouloir faire une musique qui parle au plus grand nombre, mais pas de vouloir faire un petit truc de niche fait pour soi. Comme ma musique, j'ai envie qu'elle parle aux gens. Je veux pas faire un truc super ésotérique juste pour être underground. Donc le mot variété me parlait pas mal et je voulais aussi l'utiliser parce qu'on a tendance quand on parle de variété à parler de trucs super ampoulés, un peu toute une tradition un peu très arrangée, parfois un peu ronflante dans la chanson française. Et du coup moi ça me plaisait l'idée d'en fait pouvoir réutiliser le mot pour quelque chose qui peut être un peu plus moderne, plus agressif aussi.
J'ai comme une envie de voir, j'ai comme une envie de voir loin de moi, ouais, loin de moi. Et tu te demandes si tu seras toujours le même gars.
Panorama, Arturelli. Alors vous le disiez Alain, son disque est sorti en trois parties.
Intitulé chacune, je le rappelle, comme les trois lettres qui forment son nom, Eli. Arturelli ressentait l'envie de sortir ses musiques en les vivant pleinement. Il ne souhaitait pas les publier d'un seul coup, ce qui pour lui laisse plus de temps au public de découvrir les musiques et de les mettre ainsi en relation.
Arturelli venu à Paris après le bac pour tenter d'y vivre de la musique.
Et aussi aller à la fac, Strasbourg, au lycée, Arthur jouait au tennis en sport-études. Il se blesse, ne peut plus rien faire et commence à jouer de la guitare. Cela devient vite obsessionnel. Il ne s'arrête plus. Le résultat est cet opus aux multiples influences musicales. On navigue ainsi entre un piano classique et une guitare saturée. Album dans lequel il fait aussi un clin d'œil au mythique musicien nigérian Fela.
Qui n'hésite pas à casser un petit peu la place dans laquelle il devrait être. Et donc ça m'intéressait. Et dans sa musique, enfin, c'est le truc un petit peu unique de créer un courant complètement singulier, quoi. Des artistes comme Fela Kuti, ça m'intéresse dans le sens où le mec va à Londres et il découvre le jazz, et après il revient et il crée un truc qui concrètement n'existait pas, quoi. En fait, l'afrobeat, tout le monde s'accorde pour dire que c'est Fela Kuti qui l'a créé. Et le fait de pouvoir créer un son comme ça, je trouve que c'est incroyable. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté quand même le fait qu'il a une carrière assez longue et les artistes comme ça qui ont été capables de se renouveler. Et même s'il a fait de la politique, il a jamais arrêté de faire de la musique au final.
Le temps passe, je m'en branle pas, ça m'angoisse qu'on me remplace. Alors que je suis pas encore en place, et devant moi file le temps. Si j'explose pas tout cette année, je crois que je vais foutre le camp, me faire sauter les temps.
Le temps, Arturelli, qui ne cite pas que Fela Kuti dans son disque.
Nietzsche, par exemple, pour la littérature, ou Degas côté peinture. Normal pour cet adepte des musées parisiens tels que le Louvre ou Orsay. Autres artistes qui ont les honneurs des textes d'Arturelli, Amadeus, Mozart si vous préférez. Également de la partie, le chanteur français Daniel Balavoine.
Balavoine, un peu à la Fela Kuti, j'aime bien ce côté aussi. Qui tient pas à sa place et aussi ce qui me plaît chez lui c'est le truc le côté un peu drama queen, grande gueule mais super fragile, qui met complètement le pied dans le plat, et qui ouais ce truc là de jouer jusqu'au bout, quoi. Là récemment je suis tombé sur son live télé de Lady Marlène, son premier album où il reste comme un piqué derrière son micro comme ça et il joue toute l'histoire à fond. Et puis après c'est sa voix aussi, quoi. Sa voix elle ressemble à rien d'autre, quoi. C'est OVNI de la chanson française.
Arturelli sur RFI, plus j'avance. Alors dites-nous Alain, quelle était l'intention, comme on dit avec ce morceau?
Le but de Jean-François était de préciser sa vie comme un mini-documentaire. Le premier couplet, son arrivée à Paris, son parcours dans la musique. Plus j'avance, moins il se comprend. Quand on grandit, on s'attend à être plus sage. Alors qu'Arthur, plus il avance, moins il est fort. C'est paradoxal. Le nouvel extrait de son album est libre. Quid de la liberté en musique, Arturelli?
De pouvoir sur un même projet faire coexister des styles qui n'ont rien à voir, de pouvoir faire une balade guitare-voix, de pouvoir faire des productions beaucoup plus électronique et de trouver le fil conducteur par ma voix et par les textes, quoi. Donc moi la liberté c'est ça, de pouvoir continuer d'explorer complètement et de me sentir bien avec ça et de continuer de chercher dans mon écriture. Donc en fait la liberté c'est quelque part, c'est aussi ça rejoint ce que je disais avant pour Fela Kuti, c'est jamais être satisfait en fait de ce qu'on a, quoi.
Putain je me sens libre, ouais, mais je me sens vide, si seulement on m'avait dit que la vérité ça te nique. Putain je me sens libre, ouais, mais je me sens vide, ça y est c'est limpide, et en fait vivre je valide.
Libre, Arturelli, tiré de son livre Eli, E-L-Y. Merci Alain, merci.
Disque.
Voilà, merci Alain, merci également à Fanny, Amélie et Elisabeth.
Je m'en tire, je ferme les yeux, je me tire, mais j'entends tout et c'est pire. J'avoue, j'ai menti, je vois mes rêves qui s'enterrent. J'ai plus confiance en la terre, j'ai plus confiance en ta mère. Je vois mon corps, ça me dégue, y'a que le silence qui me rend gaise. J'aimerais bien qu'on se taise, je m'en branle, qu'on se plaise. Y'a que les tableaux que je baisse, y'a que les tableaux qui sont beaux. Y'a que les tableaux qui sont libres, je me sens vide. Je suis qu'invité dans cette vide, dans cette vide. Putain, je me sens libre, ouais, mais je me sens vide. Si seulement on m'avait dit que la vérité satanique. Putain, je me sens libre, ouais, mais je me sens vide. Ça y est, c'est limpide, et en fait, vivre, je valide pas.
Dans un instant, le journal sur RFI. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi avec le cinéaste Cédric Clapiche pour son nouveau film, 2 mois. et vous m'en direz des nouvelles.
Je me sens libre, ouais mais je me sens vide. Si on m'avait dit que la vérité ça te nique. Ah putain je me sens libre, ouais mais je me sens vide. Si seulement on m'avait dit que la vérité ça te nique. Ah putain je me sens libre, ouais mais je me sens vide. Ça y est c'est limpide et en fait vivre je valide pas.